Est-ce que tu connais le projet Terra Indigena? Ça se passe au Brésil, en Colombie et en Équateur. C'est un projet qui vise à protéger 18 communautés autochtones ainsi que 17 millions d'hectares de forêts amazoniennes. Ça représente à peu près quand même 3 fois la taille de la Belgique. C'est un projet incroyable qui est rendu possible par l'Agence française de développement qui est notre partenaire du jour. Je te mets en lien en description pour découvrir ce projet et plein d'autres qui sont absolument incroyables.
On commence par un bifort exceptionnel, un partenariat que je suis doublement heureux de vous présenter avec l'Agence française de développement. Déjà parce que c'est une institution importante qui mène des projets, qui a un certain nombre de programmes, qui a beaucoup de choses à vous dire aussi. On va parler de ça, mais également parce que par ce partenariat, l'Agence française de développement soutient l'émission Backseat. Et c'est ce qui nous permet de vous présenter ces belles émissions. Avant d'accueillir notre invité pour le bifort, on va faire un petit sondage dans le chat. Les copains, dites-nous un peu si vous connaissez l'Agence française de développement. Est-ce que genre vous connaissez bien? Oui, ça c'est bon, vous maîtrisez. Est-ce que vous avez vite fait entendu parler? Ou est-ce que pas du tout, jamais entendu parler? C'est quoi ce truc? Dites-nous dans le sondage du chat si vous connaissez ou pas. Et sans plus attendre, pendant que vous répondez, nous allons accueillir le directeur général de l'Agence française de développement, Rémi Rioux. Bonsoir Rémi.
Bonsoir Jean.
Merci d'être avec nous. Très heureux de t'accueillir sur le plateau de Backseat. On va commencer par te présenter toi un petit peu. Alors j'ai vu dans ton CV que tu as été négociateur pour la COP21 en 2015.
Oui, j'étais au ministère des Affaires étrangères à l'époque. J'étais dans l'équipe de Laurent Fabius, de Laurence Tubiana. Et moi, j'étais en charge, comme je venais du ministère des Finances, j'étais en charge, ça m'a amené jusqu'à l'AFD d'ailleurs, de la partie financière en fait. Comment on va financer la lutte contre le changement climatique.
Et donc, tu as participé au négo, du coup, au nom
donc,
de la
j'étais
France.
J'étais au Bourget pendant 15 jours, là, jour et nuit, à voir comment ça fonctionne, une grande négociation internationale, en l'occurrence réussie, puisque l'accord de Paris, il est toujours là, il nous guide dans notre action.
On va en parler d'ailleurs. Aujourd'hui, tu es le directeur général de l'Agence française de développement. Qui est-ce qui te nomme? Est-ce que tu es indépendant? Est-ce que tu dois rendre des comptes à un pouvoir, au gouvernement, au président de la République? Comment ça marche?
Alors l'AFD, c'est une institution publique, hein, donc détenue par le gouvernement, mais le directeur général, il a un mode de nomination un peu particulier, c'est-à-dire qu'il doit passer devant le Parlement, donc qui a un droit de veto finalement sur la nomination. Donc c'est proposé par le président, ensuite on passe devant les commissions parlementaires qui votent, et ensuite on passe au Conseil des ministres.
Qui t'auditionne d'abord, puis
c'est d'abord le président qui propose un nom.
Ouais.
Que les commissions rencontrent, et elles ont une sorte de droit de veto, en fait. C'est pas elles qui choisissent. Et donc, il faut y aller, il faut présenter son programme. Voilà, c'est un vote, quoi. C'est comme
un examen important.
Donc, c'est très important, ouais.
D'accord. Donc, les commissions parlementaires, peuvent voter sur ta nomination. Parlons de l'Agence française de développement. J'ai vu des gens dans le chat qui disaient qu'ils la connaissaient assez mal. Ouais. J'ai lu que c'était né en partie pendant la résistance. Il y avait la caisse de la France libre.
Oui, c'est une longue et belle histoire. C'est-à-dire le général de Gaulle, à un moment, il est à Londres. Et puis, il a besoin de créer une institution. Les Anglais sont sympas. Hein, ils lui filent un compte à découvert et quelques bureaux. Mais enfin, à un moment, ça devient vraiment sérieux. Et donc, il faut créer une institution financière. Donc, c'est le 2 décembre 1941. Et la belle histoire, en fait, c'est qu'il ne s'arrête pas à Londres. Il envoie des gens qu'il avait rejoints, qui avaient traversé la Manche. Il les envoie en Afrique,
mais oui,
notamment en Afrique centrale. Là, ils arrivent dans le clair-obscur de cette période avec Vichy. Et ils prennent l'argent dans les banques, qui est en fait aujourd'hui encore le capital au cœur financier.
Ils prennent l'argent de Vichy?
Ils prennent l'argent privé dans les banques.
Ah, privé,
de gens qui étaient un peu, on savait pas bien s'ils étaient pour la France libre ou collabo. Mais d'une certaine façon, ce que je veux dire, c'est que cet argent, le cœur financier de l'AFD, en fait, il est africain, puisqu'il était dans les territoires africains qui ont rallié la résistance française.
Et qui ont permis la victoire.
Et depuis, finalement, on le fait travailler pour tisser du lien positif, constructif, concret, entre la France et l'Afrique, et maintenant le reste du monde.
Est-ce que c'est vrai que vous êtes une des plus vieilles banques de développement du monde ?
Alors, on est la plus vieille banque de développement internationale. On est né, donc, tu vois, en 1941, c'est-à-dire 3 ans avant notre grande sœur qui s'appelle la Banque mondiale. Elle est née à Bretton Woods, dans ce qui a été créé à la sortie de la guerre. On n'est pas la plus vieille, puisque la plus vieille, elle est aussi française, et elle s'appelle la Caisse des dépôts et consignations. Oui. Donc elle est née bien longtemps avant.
Napoléon.
Elle est née en 1816, elle n'est pas Napoléon, en fait, elle est née juste après Napoléon. Parce que Napoléon, il avait pris l'argent des Français pour faire ses guerres. Donc le pays était ruiné et le roi, en fait, a créé une institution sous le contrôle du Parlement, à nouveau, et pas de l'exécutif, pour protéger l'épargne des Français placée dans, bah, dans nos livrets A, dans, dans toute l'épargne populaire, et la transformer en investissement. Pour moderniser, pour développer les territoires français.
Donc ça, c'est la Caisse des dépôts.
Ça, c'est la Caisse
mais vous, l'Agence française de développement, c'est quoi votre histoire depuis ce moment un peu particulier de la libération de la France, à laquelle a participé évidemment l'Afrique et grâce, enfin via notamment le général de Gaulle. Qu'est-ce qui s'est passé après?
Ben, on a accompagné finalement toute la longue histoire depuis la Deuxième Guerre mondiale entre, je dirais, la France et le reste du monde. Donc on a été la caisse centrale de la France d'outre-mer, à l'époque de la France d'outre-mer. Ce qui explique d'ailleurs qu'on est à Mayotte, on est en Nouvelle-Calédonie encore. Et puis on est devenu la caisse centrale de coopération économique après les indépendances africaines. Donc ouais. On est devenu l'instrument pour coopérer avec le reste du monde. Et puis, bien sûr, ensuite est apparu, à partir de 1992 et du sommet de Rio, le grand agenda du développement durable qui est allé jusqu'à l'accord de Paris. Et là, on est devenu la caisse, puis l'Agence française de développement. Et la dernière étape, depuis 1999, c'est de rassembler tous les instruments finalement utiles pour créer du lien avec le reste du monde dans une seule institution, un groupe maintenant qui s'appelle le groupe AFD, et voilà, et de faire travailler ça le plus activement possible.
Alors, la France n'est pas le seul pays à avoir une agence de développement. Tu es par ailleurs le président de Finances en commun, qui est le nom d'un regroupement de plusieurs banques de développement à travers le monde, c'est ça?
Alors, on les a toutes rassemblées, en fait.
Toutes.
Et pas que les internationales, précisément. On est allé chercher les caisses des dépôts, c'est-à-dire les banques qui, dans chacun des pays, on en a trouvé 530, hein, dans le monde. Donc c'est gros, hein, ça fait 2500 milliards de dollars d'investissement chaque année.
Ah oui, c'est énorme.
Donc c'est 15% de tout l'investissement mondial. Il y en a 85%, c'est de l'investissement privé. Il y en a 15% quand même, c'est de l'investissement public. Donc qui devrait, qui doit lutter contre le changement climatique, réduire les inégalités, enfin suivre l'agenda international. Et donc on les a mis ensemble. C'est ce mouvement qui s'appelle FIX, Finance en commun, Finance in Common. Depuis la Banque mondiale, vous voyez, jusqu'à la Caisse des dépôts. Et puis il y en a plein en Chine, il y en a en Brésil, il y en a en Afrique du Sud, il y en a beaucoup en Afrique, il y en a partout dans le monde. Et on essaye de les faire travailler pour que elles fassent de bons investissements plutôt que de mauvais investissements. Vous voyez, qui sont bons pour la planète et pour les populations.
Alors, j'ai vu dans le chat que vous aviez voté à 75% que vous ne connaissiez pas l'Agence française de développement. Vous commencez à la comprendre un petit peu à travers cette explication historique de notre invité Rémy Rioux, pardon. On tourne autour du pot depuis tout à l'heure, mais parlons du fond. C'est quoi l'aide publique au développement? De quoi on parle?
Ben, c'est tout l'effort de solidarité internationale, c'est-à-dire des transferts financiers. Ça peut être des dons, ça peut être des prêts, ça peut être des appuis techniques que la France ou d'autres pays apportent à ceux qui souhaitent coopérer avec elle. Donc tout ça s'est cristallisé, j'en disais un mot, dans les années 60. C'est là qu'est né ce cadre international avec des pays en développement et des pays développés et ces transferts financiers, ces transferts de technologie. Évidemment, tout ça est en train de changer en profondeur avec le climat, en fait, parce que on est en train de se rendre compte, notamment nous ici en France, hein, on a mesuré les derniers étés en particulier à quel point notre pays est fragile, en fait, au changement climatique.
Le changement climatique doit s'adapter. Devenir la matrice du.
D'une certaine façon, on est tous en développement. Ouais. D'ailleurs, l'agenda, vous savez, l'agenda théorique, le grand agenda des Nations Unies que j'ai au revers de ma veste, là, les objectifs de développement durable, c'est la première fois qu'on a un agenda universel, c'est-à-dire tous les pays du monde doivent atteindre les objectifs de développement durable en 2030, probablement plutôt en 2050, qu'on soit la France, quel que soit le point de départ finalement. Mmh. Et donc on est en train de transformer profondément cet agenda, ces instruments, ces institutions, j'allais dire un peu au-delà de l'aide publique au développement telle qu'on l'entendait historiquement.
Alors ça représente quoi l'activité de l'Agence française de développement en termes de chiffres?
Donc nous, on vient de terminer l'année, là on avait notre conseil d'administration la semaine dernière, on termine l'année à un peu plus de 13 milliards d'euros de financement chaque année. Donc il faut bien comprendre le modèle de l'AFD, hein. On peut faire des dons, évidemment dans des pays qui sont très vulnérables, très pauvres, ou pour les secteurs sociaux. Mais le principal de notre activité, c'est, on est une banque, en fait, c'est plutôt de faire des prêts. Des prêts éventuellement à taux zéro, à taux très bas, ou selon la richesse des nations et des sujets qu'on traite. Et puis, on ne fait pas que du financement, on apporte aussi, on a une filiale qui s'appelle Expertise France, on apporte aussi à nouveau de la recherche pour trouver le chemin, on apporte de l'assistance technique, on apporte de la formation, et on le fait évidemment avec des acteurs publics, ça c'est à peu près la moitié de ce qu'on fait, donc on travaille avec les gouvernements par exemple, oui. Mais peut-être plus intéressant, on travaille beaucoup avec tous les autres acteurs, donc le secteur privé, la société civile évidemment, partout, les entreprises publiques, le secteur financier, je dirais on cherche systématiquement voilà, quel est le bon chemin, quel est l'acteur local qu'on peut renforcer, puisque notre façon de travailler c'est toujours de nous appuyer sur des acteurs locaux, c'est jamais nous qui faisons dans un pays étranger les opérations elles-mêmes.
Alors, on a une carte d'ailleurs des montants que vous investissez dans le monde entier. On voit que vous accompagnez des projets vraiment partout dans le monde. Est-ce que tu as des exemples de projets concrets que vous accompagnez ?
Ben, je reviens par exemple, j'étais hier en Serbie, là, donc j'ai une bonne semaine. Là, moi, je reviens de Serbie, je pars à Djibouti, puis en Éthiopie. Donc là, c'est tout frais pour moi. J'ai vu le travail qu'on fait sur la gestion des déchets. En Serbie, qui est un énorme problème à Belgrade. On le fait d'ailleurs avec des entreprises françaises, hein, avec Veolia, avec Suez, même si c'est les Serbes qui choisissent. Et on le fait en créant des grands centres dans chaque région de Serbie. Et puis ensuite, bien sûr, il y a tout le travail précis avec la société civile, notamment pour apprendre aux gens à trier les déchets pour ne pas remplir les... Donc ça, c'est les centres trop rapidement. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, peut-être, j'étais en Afrique du Sud il y a quelques semaines. Là, ce qu'on fait en Afrique du Sud, c'est vraiment tout le travail autour de finalement la sortie du charbon, parce que ça c'est une source d'émissions majeure, il y a des grands engagements internationaux pour sortir du charbon, mais enfin après il faut le faire concrètement et puis c'est très compliqué, il y a une région qui s'appelle le Mpumalanga en Afrique du Sud qui est la grande région minière. Tout le monde vit du charbon. C'est un peu comme nous, autrefois, en Lorraine.
Oui, dans le Nord.
Dans le Nord, dans le Centre. Et donc là, il y a tout un travail très précis, très compliqué de formation professionnelle pour les mineurs, de gestion aussi des conséquences environnementales de la fermeture des mines, et puis de création de nouvelles opportunités, de nouveaux métiers, de nouvelles industries en Afrique du Sud. Évidemment, l'Europe met maintenant des conditions, hein, c'est ce qu'on appelle la taxe carbone aux frontières, et ça accélère évidemment la transformation de l'industrie d'un pays comme l'Afrique du Sud. Donc ça, on le fait avec le gouvernement, des politiques publiques, ou alors on fait des investissements très concrets, comme je le disais à l'instant, sur des choses aussi importantes que la gestion des déchets.
Est-ce que l'aide publique au développement, c'est du néocolonialisme ?
Je vous ai rappelé notre histoire. Donc, c'est pas né à l'époque coloniale. En fait, vous savez, l'époque coloniale, le principe, c'était que les colonies s'autofinançaient. Donc, c'était plutôt, et il faut bien le dire, l'époque coloniale, c'était plutôt un modèle extractif.
Donc, c'était l'inverse. C'était les pays riches qui prenaient aux pays pauvres.
Donc, en fait, les institutions comme l'AFD sont nées après l'époque coloniale. En fait, elles sont nées au moment où on s'est mis à transférer dans l'autre sens des ressources.
D'accord.
Donc on est plutôt, je dirais, né à l'époque, si on veut, un peu post-coloniale.
Ouais.
Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pris une certaine forme historique, qu'on n'a pas joué un rôle dans ce moment. Et à l'évidence, on est en train de sortir de cette période avec l'affirmation des pays du Sud
pays du
dans
Sud,
la gouvernance
ouais.
mondiale. J'ai vu récemment à Dakar où j'ai vu le président Faye. On voit ce qui se passe au Sénégal, on voit dans beaucoup de pays et c'est très heureux. On est en train de bâtir des relations d'égal à égal et des relations qui sont plus des relations d'aide, vous voyez, qui sont des relations d'investissement. En fait, moi, ça m'intéresse ce qui se passe au Sénégal. J'investis dans la transformation du Sénégal, y compris d'ailleurs pour y apprendre des choses qui vont nous être utiles pour notre propre transition ici en France. Vous voyez, il faut voir l'AFD comme une machine à échanger.
C'est pas un paternalisme avec les pays du Nord qui vont vers les pays du Sud pour en tirer quelque chose.
Pas du tout. L'Inde, elle est confrontée au changement climatique par certains aspects de façon plus brutale, plus rapide que nous-mêmes en France. Donc on a un intérêt pour l'Inde, bien sûr, et les Indiens à les accompagner dans ce chemin pour s'adapter à ces transformations. On a aussi un intérêt à faire venir en France les technologies qui sont en train de naître un peu partout dans le monde.
Alors d'ailleurs, comment vous décidez les projets que vous soutenez? Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est depuis Paris qu'on décide là de faire un pont dans tel pays, de faire une route là, de construire une usine ici?
Non, bien sûr que non. Les projets naissent du dialogue en fait. C'est-à-dire on est vraiment une institution qui est basée sur ce qu'on... Alors bien sûr ce qu'on comprend des enjeux d'un pays, là où ça bloque, là où il y a du potentiel... Et puis ensuite, il faut toujours qu'on nous adresse une requête, comme on dit dans notre jargon, une demande. Et donc, ça vient toujours des autorités ou des acteurs du pays lui-même. Après, on peut avoir notre avis. Et on challenge, évidemment, la proposition qui nous est faite, parce que on est des obsédés de, je dirais, de l'impact. Il faut mesurer, c'est pas que du financement. Il faut mesurer ce qui a changé dans la réalité. Et puis, on est des obsédés aussi de la pérennité. C'est-à-dire, nous, on est sur les structures, en fait. On fait pas d'aide humanitaire, par exemple. On est uniquement sur les questions, ce qu'on appelle de développement, c'est-à-dire de transformation des systèmes éducatifs, d'amélioration des systèmes de santé, d'adaptation au changement climatique. Voilà, il y a des choses qui vont rester.
Au vu de la situation politique française un peu compliquée en ce moment, est-ce que vous avez peur pour le financement de l'aide française au développement? Les enjeux budgétaires, en ce moment, notamment, sont en cours de négociation. Les restrictions, on sait pas encore.
Bon, moi j'étais tu l'as pas mentionné, mais j'étais le directeur de cabinet d'un ministre des Finances en 2012, c'était Pierre Moscovici.
Ah oui.
Pendant 2 ans, on a ajusté à l'époque assez sévèrement, parce qu'il fallait le faire, c'était l'époque de la crise grecque, oui. Notamment. Je crois qu'on a ajusté les finances publiques de quasiment 1,5 point de PIB, donc c'était très fort. Donc je ne méconnais pas la nécessité de faire cet effort, je pense. Il est nécessaire. L'AFD, d'ailleurs, en fait, je vous ai pas dit notre modèle économique, mais on reçoit 2 milliards du contribuable, ouais. En gros. C'est ces ressources-là qui vont peut-être baisser l'année prochaine. On va voir comment le Parlement décide. Nous, on se bagarre pour les garder, hein,
c'est
évidemment.
Bonne guerre.
On va chercher 1 milliard à Bruxelles aussi. Okay. Hein, donc on va chercher de l'argent de la Commission européenne. Et puis, un petit peu partout dans le monde où des gens peuvent nous confier des moyens. Et puis, on ajoute à ça, c'est ce qui fait les 13 milliards dont je parlais, on ajoute à ça 10 milliards d'obligations, oui. Qu'on émet sur les marchés financiers. Donc ça, c'est un peu de l'argent privé, en fait. C'est des gens qui achètent des titres financiers émis par l'Agence française de développement. Et puis ensuite, on mixe tout ça. Encore une fois, en fonction de la richesse de celui à qui là où on veut intervenir.
Donc encore une fois, c'est pas l'Agence
française de... Ce que je veux dire, c'est que la note de la France sur les marchés financiers, pour l'AFD, c'est quelque chose de très important. C'est très important pour nous tous, puisque une partie de nos services publics est financée par la confiance que les marchés financiers placent dans la France.
Alors, vous intervenez également à Mayotte, bien que ce soit un territoire français. Qu'est-ce que vous faites à Mayotte? C'est d'actualité, malheureusement, avec le titre.
Alors oui, d'ailleurs, le président de la République y est en ce moment même. Hein, et nous, on a une bonne dizaine de salariés à Mayotte. Donc, on était d'ailleurs inquiets, parce qu'on était sans nouvelles pendant de longues heures, presque 2 jours. Donc là, tout le monde est sauf, fort heureusement, et on les appuie. C'est un peu le fruit de l'histoire, hein, oui. C'est parce qu'on était cette institution qui travaillait dans tout l'outre-mer français. Mais je crois que c'est surtout très moderne. Parce que on voit les territoires d'outre-mer français. Finalement, on le voit du côté des autres, en fait. On le voit du côté des voisins. Nous, on travaille à Mayotte et aux Comores. On travaille à Mayotte, bien sûr. Donc, ces questions très complexes, hein, très difficiles, dans cet archipel, nous, on est probablement la seule institution française à le voir des deux côtés et à investir d'ailleurs à la fois à Mayotte et aux Comores. Donc, on investit beaucoup à Mayotte et on a beaucoup augmenté les investissements très fortement dans les collectivités locales, en fait. C'est-à-dire, on finance notamment les investissements des communes, de la région. Et bien sûr, vous connaissez les grands sujets de Mayotte, c'est notamment la gestion de l'eau qui est très délicate. Et puis tout ce qui est entrepreneuriat, création de valeur, création d'emplois, compte tenu de la démographie aussi, hein, qui est très complexe et très rapide à Mayotte.
Qu'est-ce que vous répondez aux critiques qui ont été émises et qui consistent à dire que l'AFD n'a pas utilisé l'argent des Français pour l'envoyer dans les pays pauvres? Ils ont qu'à se débrouiller, d'un certain point de vue.
Alors, comme je vous l'ai dit, on fait, je crois, un usage très très optimisé des ressources des Français. Donc, on est vraiment, nous, dans une logique d'investissement, alors on dit investissement solidaire et durable, plutôt que dans une logique d'aide. C'est-à-dire on veut vraiment atteindre un résultat par cet investissement et on utilise l'instrument financier le plus dynamique et puis on en attend aussi une forme de retour. Ce retour n'étant pas financier d'ailleurs, étant on va réduire les émissions de CO2 parce que ça, si on met pas de CO2 dans l'atmosphère, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour les Français. Si on protège, nous on protège des dizaines de milliers d'hectares chaque année dans le monde, ça veut dire plus de capacité à capter le carbone et puis aussi de protéger la nature et la biodiversité. Ça, c'est bon, c'est l'intérêt mutuel de nous tous. Et puis après, moi, je crois et je défends la solidarité internationale. On l'a bien vu dans la crise du Covid. C'est-à-dire, bien sûr, la première réponse à la crise Covid, ça a été chaque pays...
Chacun pour soi.
Oui, la première, c'était... Mais c'est bien, c'est chaque pays doit prendre soin de sa population.
Oui.
C'est-à-dire, il faut que les gens soient responsables et prennent les bonnes mesures. Et puis, on a assez rapidement vu dans la crise Covid qu'il fallait quand même un vaccin pour tout le monde. Et donc, dans un deuxième temps, on a compris l'importance et qu'il fallait qu'il n'y ait pas de maillon faible dans la réponse à la crise. Et que donc, il fallait là aussi un surcroît de coopération internationale.
Est-ce que l'AFD a un but lucratif ? Parce que j'ai vu sur le chat des personnes parler de banque
avec
un mauvais...
Non, on est une institution à but non lucratif, clairement. Simplement, on est une entreprise, c'est-à-dire que on a un compte de résultats, on a un bilan...
Oui,
on
cherchez dégage, pas à perdre de l'argent pour
on dégage, plaisir, mais... Exactement, on ne perd pas d'argent, on dégage un résultat de 200-300
millions. Mais vous n'êtes pas là pour faire un...
Mais on ne facture, pour être très précis, concret, quand on fait un prêt ou un don à quelqu'un, on ne facture pas d'intérêt, de profit.
D'accord.
On couvre nos salaires, on rembourse nos salaires, on est 5 000 à l'AFD, mais on apporte un service évidemment, mais on ne fait pas de profit bien sûr.
L'AFD a investi plus de 2 milliards d'euros dans 50 projets chinois. Mm-hmm. Est-ce que c'est le rôle de la France de financer le développement chinois ?
Alors c'est pas de l'aide, à l'évidence.
Hein, d'ailleurs, ils n'en ont pas besoin.
Ils n'en ont pas besoin. C'est un très grand pays. D'ailleurs, en vérité, les gens qui achètent les obligations émises sur les marchés par l'AFD, c'est aussi des Chinois qui sont très friands de dettes françaises.
Ils financent l'AFD.
Donc, par certains aspects, je ne vous fais pas tout le circuit, mais il y a de l'argent chinois qui part de Chine, qui passe à Paris à l'AFD et qui retourne en Chine.
Voyez.
Donc la question, c'est pourquoi ils font ça ?
Oui.
Ils font ça parce que je crois notamment qu'ils ont compris qu'il y avait en France et qu'il y avait au sein de l'AFD des professionnels que je salue, notamment des sujets de climat et des sujets de biodiversité. Et ça, vous savez, c'est des enjeux majeurs pour la Chine, dans la situation où est la Chine, et c'est des enjeux majeurs pour le monde et où on a intérêt à joindre nos forces, comme je le disais, entre la France, l'Europe et la Chine. J'ajoute un mot, c'est que pour le coup, il y a 0 euro d'argent. On entend beaucoup de bêtises en ce moment hein,
oui,
sur ce sujet-là. C'est vraiment des prêts à taux relativement élevés. Donc, il n'y a pas d'argent budgétaire, il n'y a pas d'argent du contribuable, pas 1 euro dans l'activité de l'AFD en Chine.
Ouais,
d'une certaine façon, c'est les Chinois qui sont seuls qui payent le service que leur apporte l'AFD.
Vous intervenez, alors on l'a dit tout à l'heure et vous l'avez expliqué, l'AFD ne fait pas d'humanitaire, l'AFD fait du développement, ce qui n'est pas la même chose.
Ouais.
Vous intervenez néanmoins en zone de conflit. Depuis peu, vous intervenez en Ukraine et depuis plus longtemps, vous intervenez en Palestine. Qu'est-ce que vous faites dans ces deux pays et dans ces deux zones de conflit ?
Alors dans le système français, il y a un acteur qui est en charge de l'humanitaire. C'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ouais. Et en particulier, je salue vraiment leur action, c'est leur centre de crise et de soutien. Donc il y a en ce moment...
Qui ont apporté du matériel à Gaza, notamment.
Qui apportent à Gaza et qui sont capables. Mais voyez, l'aide humanitaire, d'une certaine façon, c'est un peu le contraire du développement. C'est-à-dire qu'il faut agir très rapidement. Il faut éventuellement savoir agir en mettant de côté, parce que c'est la guerre, les acteurs locaux. Ouais. Parce qu'il faut juste amener, il faut sauver les gens. Le développement, par certains aspects, c'est l'inverse. C'est-à-dire, il faut agir dans le long terme. On vient pas et on s'en va. Nous, on reste dans les pays. Et puis, il faut aller jusqu'à transformer les structures mêmes du pays. Et c'est là que les territoires en crise, les pays en crise sont si importants. C'est qu'une crise, c'est aussi, il faut en avoir conscience, une crise, c'est aussi un moment où les structures d'un pays bougent, en fait. Vous voyez, parfois les pays sont installés dans des équilibres politiques, dans des équilibres économiques, sociaux, qui sont sous-optimaux en fait, et où il y a des phénomènes de rente, où il y a des dominations, et donc des gens qui souffrent. Et parfois dans la crise, ces gens-là sont déstabilisés, ces équilibres sont déstabilisés.
Pour le meilleur comme pour le pire.
Pour le meilleur comme pour le pire, absolument. Ça peut aussi se refermer sur quelque chose d'encore pire, mais ça peut aussi amener à des situations où il y a plus de développement, en fait. Donc, mon point, c'est, vous savez, on parle souvent, on dit le continuum, c'est-à-dire il faut d'abord amener de l'humanitaire, ensuite, il faut amener des diplomates pour trouver une solution politique, puis après, il faut amener des militaires, et puis les gens du développement, ils viennent seulement à la fin. Moi, je pense que non, il faut avoir, moi, j'appelle ça le contiguum. Il faut avoir à tout moment dans un territoire en crise l'ensemble, les 3D en fait, la diplomatie, le développement et la défense en fait, les outils militaires. Donc c'est ça qu'on essaye de faire, c'est très difficile en ce moment, mais on a continué à travailler dans les territoires palestiniens.
En Palestine par exemple, voilà.
Absolument,
qu'est-ce que
vous faites? Là hier on a financé avec d'ailleurs des fonds du Qatar aussi, c'est des fonds français et des fonds du Qatar, l'hôpital Saint-Joseph en territoire palestinien, qui est un minimum de services de santé de base. On a investi plus de 500 millions dans les territoires palestiniens, notamment à Gaza, où on avait financé, j'y reviens parce que c'est très important, tout le système de collecte et de gestion des déchets. Donc beaucoup de services de base.
Gaza aujourd'hui est à terre, on verra le développement.
Voilà, on ne sait pas exactement où en sont les infrastructures qu'on avait financées. On a hâte évidemment de pouvoir à nouveau apporter notre soutien.
Tu l'as dit tout à l'heure, il y a un enjeu important autour du développement durable qui est quasiment en train de devenir la matrice du développement, de l'aide au développement partout dans le monde. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous répondez à l'urgence climatique? Est-ce que c'est des développements à long terme qui sont nécessaires compte tenu de l'urgence?
C'est pour ça que moi je me bats un petit peu contre l'aide publique au développement.
Ouais.
C'est très important, mais l'aide publique au développement, ça ressemble un peu à un truc ancien, quoi, un truc un peu
du monde d'avant,
un peu has-been, quoi, du monde d'avant. Or, je crois que ce qu'on fait nous à l'AFD, il y a rien de plus nouveau en fait. On est vraiment,
moi
je le vis, on est à la frontière de cette grande transformation. Parce que ce qui est en train de se passer en fait, je vous renvoie d'ailleurs aux travaux, vous connaissez sans doute Pierre Charbonnier, le philosophe là qui est si brillant, c'est qu'on est en train de vivre une très très profonde transformation du monde et des relations internationales. Et il faut arrêter de penser la géopolitique d'un côté et le climat de l'autre.
Oui,
en fait, ce qui est en train de passer, c'est on avait nos libertés, notre démocratie, et puis l'équilibre du monde géopolitique. En fait, il faut bien comprendre qu'il a été fondé, basé, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, sur une économie fossile, en fait. C'est pas ce qu'on a dit au monde qu'ils auraient accès à une énergie abondante et peu coûteuse, c'est-à-dire le charbon puis le pétrole, qu'on a réussi à stabiliser le monde après la Deuxième Guerre mondiale.
C'est pas vrai, ça.
Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a compris qu'il fallait décarboner notre industrie, décarboner nos économies.
Et alors, quel exemple est-ce que tu as de projets de développement en lien avec la lutte contre justement le réchauffement climatique? Qu'est-ce que vous financez?
Bah nous, on finance, j'étais en Chine, on finance du chauffage urbain, par exemple, avec beaucoup d'efficacité énergétique pour éviter la pollution, les émissions. On finance au Burkina Faso, on a financé la plus grande centrale solaire à Zaktouli d'Afrique de l'Ouest. On finance le barrage de Nachtigal au Cameroun, qui apporte 10% d'électricité supplémentaire décarbonée à la population. Donc nous, sur les 13 milliards que je vous indiquais, il y en a plus de 7,5. C'est nous qui portons les engagements de la France, nés dans l'accord de Paris pour le climat. Et donc, dans les 1000 projets qu'on finance chaque année, il y en a peut-être 500 dont on arrive à mesurer l'impact concret, direct, dans la lutte contre le changement climatique et pour la protection de la nature. Ça, c'est vraiment notre très, très grande priorité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le social qui arrive tout de suite après. Il ne faut surtout pas opposer l'environnemental et le social, parce que la transition, c'est ça qu'on fait en Afrique du Sud, je vous en parlais, la transition, elle doit être juste, en fait. Sinon, elle sera rejetée par les populations.
Une critique historique de l'aide publique au développement, ça a été l'extrême droite. Les extrêmes droites, le nationalisme qui ne voulait pas qu'on dépense de l'argent pour aller dans les autres pays et dans les pays pauvres. On voit l'extrême droite monter partout en Europe. Est-ce qu'il y a une crainte d'un repli sur soi? Est-ce qu'il y a une crainte que l'aide au développement réduise?
C'est la Corrèze, moi je suis corrézien, c'est la Corrèze ou le Zambèze, hein, vous vous souvenez de cette formule?
Non, je me souviens pas.
C'est une formule qui est née après les décolonisations, qui exprimait un petit peu cette idée que les ressources doivent être garder pour la Corrèze.
Ouais, d'accord.
Et
okay.
ne pas être investi dans un pays qui paraissait être... Bon, moi, je pense le contraire. Je pense qu'il faut... C'est ce que je vous disais sur le Covid. Il faut bien sûr investir en Corrèze. Je dirais pas le contraire. Mais il faut aussi investir en Zambèze, parce que... ou en Afrique du Sud, à côté. Parce que les sujets sont liés, en fait, en vérité. On a des intérêts nationaux, bien sûr. Il faut les assumer. On a des intérêts économiques. Mais on a aussi des intérêts mutuels, en fait. On a des choses à faire ensemble. Et je dirais, on a même... C'est très intéressant de s'intéresser aux intérêts des autres. En fait, d'essayer de comprendre comment résonnent, comment se projettent les pays. Parce que c'est pareil, la lutte contre le changement climatique, il faut que tout le monde le fasse, en fait. Hein, il faut le faire, évidemment, en apportant des appuis, des investissements. Mais si on le fait juste aux bornes de l'Union européenne et que personne ne le fait dans le reste, on va avoir le même problème.
Hein. Oui, et puis tu parlais tout à l'heure d'économies et de pays du Sud qui, eux aussi, sont... liés aux ressources fossiles, par exemple. Il faut bien aider ces régions-là à se transformer parce que si plus personne leur achète leur charbon...
Absolument. Il y a un mécanisme d'ailleurs très intéressant. Vous savez, il y avait la COP 29 à Bakou, là, il y a quelques jours. Et on a finalisé une grande négociation qui a duré 10 ans autour du sujet des crédits carbone. Vous savez, et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quand on achète des crédits carbone dans un pays étranger, en fait, on peut le compter dans sa propre performance trajectoire de décarbonation, celle de la France. Donc, vous voyez, ça, c'est très intéressant parce qu'on rentre dans une discussion vraiment où on se dit, mais où est-ce qu'on peut le plus rapidement, le plus efficacement économiser des tonnes de CO2 par de l'investissement et c'est plus de l'aide, là, vous voyez, il y a un lien direct entre notre investissement et notre propre transformation.
Alors, l'Agence française de développement, vous voulez devenir, je cite, une plateforme de mobilisation. Ça veut dire quoi ?
Ben, ça veut dire que on veut qu'il y ait plus d'acteurs français, de jeunes, de collectivités locales, d'ONG, d'entreprises qui s'engagent dans la coopération internationale, l'investissement à l'étranger, qui s'intéressent aux autres, qui ramènent, parce que c'est passionnant, ce qu'elles ont observé, encore une fois, dans nos propres territoires, dans leurs propres actions. Donc on est la grande plateforme déjà de financement de la société civile française, depuis 15 ans maintenant. On est une plateforme importante de financement de ce qu'on appelle la coopération décentralisée, c'est-à-dire quand les collectivités locales françaises travaillent avec des collectivités locales du Sud. Et puis on a lancé par exemple un média qui s'appelle Tilt, qui est un agrégateur de beaucoup, beaucoup de contenus, notamment comment devenir volontaire, des choses très concrètes, et puis aussi des vidéos, des exemples. On y met beaucoup des projets qu'on finance en direction de la jeunesse. Et on a un travail aussi auquel je suis très attaché avec le ministère de l'Éducation nationale. On a pris l'engagement, je crois, d'ici à 2027, de sensibiliser un lycéen, un collégien sur deux, donc c'est très ambitieux, au sujet du développement durable, en fait. D'accord. Et aux ces objectifs de développement durable. On fait même avec eux des sortes de négociations,
des fausses négociations internationales, pour qu'ils
comprennent un peu à quel point c'est difficile, mais en même temps, comment on peut trouver un chemin collectif.
On peut retrouver l'Agence française de développement, notre partenaire du jour, sur son site internet, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Je rappelle, Rémi Rioux, que tu es le directeur général de l'Agence française de développement, également le président de Finance en commun. Tu es également l'auteur d'un livre qui s'appelle Pour un monde en commun, paru aux éditions Actes Sud, que j'ai dans les mains. Un dialogue écrit avec Achille Mbembe et qui pose les regards croisés entre Afrique et Europe sur les grandes questions de notre époque. Et tu veux nous parler d'un autre livre ?
Non, je voulais juste vous en montrer un autre.
Vas-y.
Parce qu'il n'est pas sorti encore, il sortira en janvier. Mais
c'est une exclu.
Il sort chaque année, en fait. Il y avait dans cette belle collection là pour quand on veut en 2 heures prendre connaissance d'un sujet économique, il y avait l'économie mondiale, il y avait l'économie européenne, il y avait l'économie française, il n'y avait pas l'économie africaine. Et donc ça fait maintenant 5 ans qu'on publie chaque année au mois de janvier. C'est des chercheurs africains et des collègues de l'AFD qui publient à la fois la situation macroéconomique et puis là il y a un chapitre sur l'intelligence artificielle, un chapitre sur l'état de la démocratie en Afrique. Donc vraiment je vous engage à jeter un œil. L'AFD c'est pas que du financement, c'est pas que des appuis, c'est aussi de la recherche, de la pédagogie. Ouais. On veut contribuer au débat public ici en France sur ces sujets.
Et je précise que l'AFD a lancé son canal WhatsApp également. On va te laisser, Rémi, tu dois filer, retrouver le président de la République à Djibouti. Tu files à l'aéroport juste après, en sortant du studio.
En taxi-moto,
tu dois aller très très vite. Ça t'arrive souvent d'accompagner le chef de l'État à l'étranger ?
Ça m'arrive souvent, oui.
Bah oui, de fait, t'es le président de l'AFD.
Dès qu'il va dans un pays dit en développement, généralement, je l'accompagne. Puis je voyage aussi beaucoup tout seul. Hein. Donc moi, je voyage 3 semaines. Moi, j'ai le plus beau métier du monde, hein, il faut bien le dire. Je peux rencontrer qui je veux.
T'as pas le meilleur bilan carbone du monde, par contre. Mais...
Bah, je dirais pas ça, parce que j'y vais pour réduire les émissions. Donc il faut raisonner un peu en net, quand même.
Hein. Ouais, je vois ce que tu veux
dire. Et la contribution de l'AFD à la réduction des émissions, elle est massive. Donc il faut aussi aller voir les gens, il faut aussi leur parler et les convaincre que la lutte contre le changement climatique, c'est dans leur intérêt.
Merci beaucoup, Rémi Rioux et l'Agence française de développement.